بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ. On va avancer un petit peu, Inch'Allah. J'ai une question à poser à une première personne, celle qui est à ma droite. Qu'est-ce que la salat de Isha t'a apporté? Ça permet de bien finir la journée, sans le moindre doute. Commencer une journée avec l'adoration d'Allah par des prosternations et terminer une journée dans le ibadah, mashallah, c'est une journée accomplie. Au-delà de l'aspect même de la salah, de l'enchaînement des gestes, ce qui est extrêmement important à travers notre salah, vous savez, quand on vient à la salah de Isha, en général, on est fatigué. Parce qu'on a eu une journée qui, mashallah, était longue, était chargée de stress et de pression et de travail, et fatigue physique, pression sur les épaules. Quand on vient à Isha, on est tous un petit peu fatigués. D'accord. Ce qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'on accomplit la salah, on arrive à se déconnecter de notre journée. Ça, c'est le béaba. Et au-delà de la déconnexion avec le dunya, on doit être capable de se connecter, entre guillemets, avec notre Seigneur par le biais de la sourate Al-Fatiha. Par le biais de Subhan Rabbi Al-Azim, de Subhan Rabbi al-A'la, et de s'imprégner de ces adhkars et de cette sourate al-Fatiha et le ressentir au plus profond de son cœur jusqu'à ce que je sens que mes muscles se délâchent et je me sens vraiment mieux. Quand on arrive, on est stressé, on est toujours stressé parce que voilà, on se déplace, en plus on arrive à l'heure pour se garer, si mashallah il faut faire Katam Yassin et ainsi de suite. Yani, c'est normal, le rythme hein, avec les informations qu'on entend et tout, l'être humain de sa nature est un peu stressé. Mais quand on lit, ou on entend l'imam et que nous-mêmes on lit après Alhamdulillahi Rabbil Alameen, le cœur doit être orienté vers Allah, que vraiment toutes les louanges sont pour Allah. Et Allah c'est qui? C'est Rabb Al Alameen, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Et moi, je me retrouve devant Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Moi, je suis là devant le clément, le miséricordieux. Personne n'a un degré de clémence et de miséricorde qui est proche ou qui est semblable à celle d'Allah Azza wa Jalla. Là-dessus, il n'y a rien à dire, rien à redire. Et être debout en face de Rabbul Alamin, qui est Rahman, qui est Rahim, et qui en plus est Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. C'est-à-dire que si je me tiens correctement devant lui et que s'il m'accepte dans cette salah, je réussis mon dunya et le akhira. Parce que c'est Allah qui est le Seigneur des mondes. Et Al-Alami, les savants disent « Kullu ma siwa Allah » tout ce qu'il y a en dehors d'Allah. Et si notre Seigneur, le Seigneur des mondes, m'a accepté et qu'il demande aux Alamin, aux différentes créatures, d'être bienveillant avec moi, j'ai réussi mon dunya et mon akhira. Si le très clément fait preuve de clémence envers moi, j'ai réussi mon dunya et le akhira. Et si Malik Yawmiddin, le jour de Qiyama, ce jour difficile, Allah m'a accepté et Allah m'a agréé, Allah me fait passer les étapes avec facilité, il n'y a pas plus heureux, il n'y a pas vie plus accomplie que celle de ce croyant. La clé, c'est la salah, ikhwani fillah. La clé, c'est la salah. On peut faire une salah vite, rapidement et tout, en lisant les mêmes choses et puis faire une salah avec un peu plus de réflexion et d'apaisement et de rechercher l'apaisement, de rechercher cette détente, j'allais presque dire musculaire, vie, et cette détente psychologique et cette accroche spirituelle. Ça, on a dans la salah. Ça, on ne peut pas l'avoir, même vous. Vous pouvez faire n'importe quelle autre méditation, mais dans la salah, il y a quelque chose de spécial qui descend. pour ceux qui sont capables de le prendre et trouver une tranquillité, un apaisement. Et c'est un des secrets de la salat qu'Allah nous permet de les comprendre et de ressentir cette salat. Après, on n'a pas complété la salat al-Fatiha, mais ce n'est pas le but. Mais c'est quelque chose vraiment qui est important, de se déconnecter de ce dunya et de ressentir la puissance d'Allah et cette clémence qui descend sur nous lorsque nous faisons la salat. Wa akhraj al-imam Ahmad. On a un hadith de Imam Ahmad. Non, je suis parti trop loin. Un hadith de An-Nasa'i rahimahullah et de At-Tabarani et de Ibn Abi Dunya. Il a donc trois piliers de Ulum al-Hadith. Et parmi les trois, le plus fort, mais le plus connu, c'est An-Nasa'i, celui qui a écrit qui a compilé le Sunan An-Nasa'i. Hadith de Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليكم ولها نعيم الدنيا وما فيها إلى آخر الحديث والحديث في الأخير لما يرى من ثواب الله له. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la joie du défunt. Choquant ces termes. La joie du mu'min qui quitte ce dunya. Et ce hadith, c'est comme si que on met un baume sur le cœur de toutes les personnes qui sont endeuillées. Toutes les personnes qui ont perdu un être proche. Et c'est humain, c'est normal de ressentir de la tristesse et de la peine. Mais le mu'min qui intègre que ce monde, c'est un passage vers l'au-delà, et que ce qui est important, c'est de mourir dans l'obéissance d'Allah, ben là, on a le cœur apaisé. Parce que ce hadith stipule qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui meurt alors qu'elle a du bien prévu auprès d'Allah. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi son passage sur cette terre et pour qui Allah a prédestiné du bien de l'au-delà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mu'min quitte ce monde, quand on quitte ce monde, on va vers quel monde? Le monde du Akhira, parce que c'est une succession de mondes. Oui, vous allez me dire qu'il y a le monde de la tombe, bien sûr, mais la tombe fait partie du Akhira. À partir du moment où ce mu'min passe dans le monde de l'invisible et que la personne a vu ce que le prophète a dit, « Walaha indallahi khayrun ». C'est quoi khayr? Le bien. Et que cette personne a vu le bien qu'Allah Rabbul Izza lui a réservé. Et parmi ces biens, il y a des ni'amas qu'Allah accorde aux défunts immédiatement. Parmi ces ni'amas, la possibilité de voir l'ange de la mort sous son aspect le plus magnifique, le plus beau. Dans certains textes, il est dit que, j'ai pas assez de Imam Tabari, me semble, de Qurtubi. Et il dit que c'est presque une récompense de toute une vie pour un croyant de voir l'ange de la mort sous son aspect d'ange de lumière. Il n'y a pas besoin de dire d'un aspect magnifique. Les anges sont magnifiques. Ce sont des créatures de lumière. Et qui sait qui voit l'ange de la mort sous son aspect original de nour, de lumière, c'est le mu'min. Alors que Allah protège le kafir, celui qui est dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, voit l'ange de la mort au moment de mourir, mais sous son aspect le plus effrayant et qui est accompagné d'un cortège de 500 malaïka. Et pour le mu'min, ces malaïka qui, on pourrait dire, ouvrent la marche à l'ange de la mort, lui annoncent la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de lui. Et donc, il me semble que c'est Al-Qurtubi dans At-Tadhkira, qui dit que c'est déjà une récompense de toute une vie. C'est comme si que le mu'min qui voit l'ange de la mort sous son aspect de munawwar lumineux, de nour, c'est déjà une récompense pour toute sa vie de bonnes actions. C'est-à-dire que c'est à cet instant que le mu'min perçoit et voit et comprend qu'est-ce qu'Allah est en train de lui donner, de lui accorder. Il y a la vision de l'ange de la mort et la vision du cortège qui l'accompagne. Il y a les bonnes nouvelles qui accompagnent les anges, l'ange de la mort et son cortège de Malaïka. Entre autres, ce qu'on récite presque tous les mardis, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, et d'autres versets, Alladhina tatawaffahumul mala'ikatu. Attention, hein, le bon modèle. Hein. Alladhina tatawaffahumul mala'ikatu. La. Zalimi anfusim, zalim. Zalimi anfusim, c'est le mauvais. Il y a les deux, il y a succession de versets. Et ça, c'est une des beautés du Coran, que Allah donne l'exemple et le contre-exemple. Pour que le mu'min voit, quand tu es dans le droit chemin, qu'est-ce qu'Allah t'accorde. Mais attention, si tu changes d'avis, si tu vas dans l'autre sens, qu'est-ce qu'Allah te réserve. On veut le début. Alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin. Yaquluna Rajab, faut ouvrir le Coran. Salamun alaykum. Chers frères, quand on se voit, on dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'on se donne la main ou non, qu'on ait peur de se transmettre des microbes ou non, peu importe. Mais qu'on dit assalam alaykum. Un frère qui te dit que la paix de mon Seigneur soit sur toi, c'est un doua. On est content, on dit bien. Mais quand c'est un ange qui te le dit, c'est another level là. Quand il te le dit, c'est parce qu'Allah lui a demandé de te le dire. Et quand l'ange te dit « Salamun alaykum », après il y a quoi ?« Tibtum »« Salamun alaykum », c'est qu'il te transmet les saluts, les salutations, le salam de son Rabb, d'Allah Azza wa Jal. Et donc quand le mu'min l'entend et qu'il est en train de quitter ce dunya, subhanallah, ça fait partie des récompenses que le croyant voit alors qu'il fait encore partie de ce monde. Le défunt, il sait encore qui est autour de lui, parce qu'il est encore dans ce dunya, son ruh est toujours là. Les anges sont venus récupérer son âme, ce qui veut dire qu'à cet instant, lorsqu'il voit tout ça, son âme est toujours dans son corps. Mais ses priorités ont changé. 5 minutes avant l'agonie, ce qu'on appelle le sakaratul maut. 5 minutes avant le sakaratul maut, le grand-père ou la grand-mère, ou et puis de nos jours, ce n'est pas que les personnes âgées qui meurent, personne qui suit son lit de mort, que ce soit à l'hôpital ou à sa maison, ben, la personne, de quoi elle a envie? Elle veut voir ses proches, oui ou non? Fitra. Fitra. C'est dans la nature humaine, ça. Avant de mourir, une personne veut voir, si c'est un homme, il veut voir sa femme et ses enfants. Même s'il y a eu des problèmes à un moment donné avec ses enfants, même s'il y a eu une cassure, les enfants n'ont plus voulu fréquenter, ainsi de suite, mais avant de mourir, il veut voir ses enfants. Voir ce qu'Allah lui a accordé et celui qu'il a fait grandir. Ça, c'est de la fitra, de la nature humaine. Mais vous savez, lorsque l'ange arrive, et là, on parle du cas positif, d'accord? Le hadith qu'on est en train de commenter, hadith de Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, ça concerne celui qui a un bon destin et qui a accompli sa mission sur terre, que son parcours a été agréé par Allah, et que cette personne, à partir du moment où elle voit le monde de l'invisible, chose qui ne nous est pas accessible bien sûr, ben ses priorités ont totalement changé. Les personnes qui sont autour de lui ne l'intéressent plus, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé parce que le mu'min voit enfin 75 années de salat, 10 hajj, 25 umrah, 400 khatm al-Qur'an, salat al-tarawih, dhikrullah, éloignement des péchés, ainsi de suite. Et khouanifillah, ça rejoint ce qu'on avait lu la dernière fois, un peu rapidement, et on s'était séparé sur cette parole qui est magnifique, dit que lorsque le musulman quitte ce monde, c'est exactement lorsque son nef, son ruh, quitte son corps. Kamathali rajulin, avait ça à traduire. Kamathali rajulin, kana fi sijnin, fa ukhrija minhu. Ça veut dire quoi? C'est exactement comme quelqu'un qui était en prison et qu'à un moment donné, on l'a retiré. C'est pas kharaja. Kharaja, c'est il sort. Ukhrija. On l'a fait sortir. Et il dit que « Faja'ala yataqallabu fil ardi وَيَتَفَسَّحُ فِيهَا. La personne commence à, un petit peu comme il dit en créole, il apprécie. Il est sorti de prison et là il profite. Il profite du soleil, du ciel, de la liberté. Bon, Allah nous protège de la prison qu'on n'est pas à connaître, c'est quoi le bonheur de retrouver la liberté. Mais je veux dire que c'est une métaphore qui nous parle. On comprend que c'est quelqu'un qui enfin découvre le bonheur. Ben, c'est pareil, le nafs, le ruh quitte le corps. Autour de nous, les gens pleurent. Ah, papa, dada, dadi, nani et autres. Parti, nous laisse, tu nous as laissé, ainsi de suite. Mais le défunt, là, franchement, il n'est plus là avec nous. Parce que quand il voit ce qu'Allah lui a accordé, subhanallah, et qu'Allah nous fait comme ce mayyit là, que quand le ruh quitte l'âme, il ne regarde plus derrière. Et je reviens vers le hadith du jour, et c'est quelqu'un à qui Allah a prédestiné quelque chose de beau, parce qu'il a passé sa vie dans l'obéissance, personne de ce cas-là, qui a déjà vu et perçu, et j'ai oublié de compléter, parmi les choses qu'on voit, c'est le cortège des malaïka, c'est l'ange de la mort, c'est les anges qui posent les questions, et on se sent capable de répondre aux questions des anges avec grande facilité. Et cette tombe qui s'élargit, et cette fenêtre du paradis qui s'ouvre, cette brise du Jannah qui, mashallah, que tu peux ressentir, et surtout, les savants disent que quand quelqu'un est enterré, la personne voit deux choses. Il voit sa place dans le Jannah pour le mu'min, et ce mu'min voit également qu'elle aurait été. On parle de conditionnel qui ne s'est pas produit. Et ça, c'est le ilm d'Allah. Pour ceux qui sont réguliers au tafsir, Allah connaît le passé, le présent, le futur, mais également le futur. Ma lam yakun laukana kaifa yakun. Le futur conditionnel qui ne va pas se produire. Que si Zakaria s'était marié avec Aïcha, je dis un nom, quel aurait été son destin? C'est un exemple. C'est-à-dire que les différents cas de figure, à un moment donné dans ta vie, tu arrives à un carrefour, il y a A, B, C, D, lequel choisir? On dit, Ya Rabb, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'qudratik. On demande à Allah de nous montrer le droit chemin. C'est l'istikhara. On dit aux parents de faire du'a, on fait mashfira, ainsi de suite, et puis on prend une décision. Fa'idha azamta fa tawakkal ala Allah. Amshi ya hajj. T'as pris ta décision, hajj, avance. Pas dit, ah ben peut-être que fallait pas retourner. Après tout ça, tu as pris ta décision, il y avait mashfira, il y avait istikhara, il y avait du'a, il y avait les parents, les gens qui ont de l'importance pour toi, qui ont fait du'a pour toi. Khalas, c'est ton destin là, avance et ne regarde plus derrière. Et quand tu prends un chemin, ben, c'est que tu as délaissé d'autres chemins. Et les chemins que tu as fermés par ton choix, bi'idhnillahi, c'est toi taqdir. Mais les autres chemins là, qui ont été fermés, Allah connaît qu'est-ce qui aurait été, quel aurait été l'aboutissement de ces autres chemins. Donc, ça c'est le ilm d'Allah. Ça rend de le ilm d'Allah. Ce sont des choses qui ne nous sont pas accessibles. Ce n'est pas pour rien si le taqdir c'est complexe. Parce que le destin c'est basé sur le ilm d'Allah, la connaissance du futur et du futur conditionnel. Et du futur, Allah seul, c'est là où on est en train de parler. Là. Je pense qu'on est le 3 mars. Dieu seul sait quand on se revoit mardi dans 2 semaines. Quelle sera notre situation? Est-ce qu'on sera dans une situation où il y a déjà 400 personnes dans les hôpitaux avec le coronavirus? Est-ce qu'on sera encore en mesure de faire salat en jama'a? Où il y aura déjà des interdictions? Est-ce qu'on sera dans une psychose? Est-ce qu'on sera dans une situation où les gens ils cassent les magasins pour... Dieu seul le sait. Et je vous fais peur, là. D'accord? Non, ça n'arrivera pas, Inch'Allah. D'accord? Et tu envoies un message, madame dit, allez vite, carrefour, là, achetez du riz. Achetez 2 balles de riz. Non, ma fichof, Inch'Allah. C'est-à-dire que le destin, Allah seul le sait. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va, là, tout? Il n'y a pas de fièvre, Inch'Allah. Alhamdulillah. Hein? Je plaisante. Donc, c'est-à-dire que le futur, Allah seul le sait. Et justement, quand cette personne a vu, oui, il voit 2 choses. 1, son Jannah. Et 2, sa place dans l'enfer si elle avait pris le mauvais chemin. C'est compris ça? La personne, le mu'min, voit la place qu'Allah lui a réservée dans le Jannah. D'accord ? Et Allah le fait voir également une deuxième vision. Quelle aurait été sa place dans le Jahannam s'il n'avait pas choisi le droit chemin ? Et pour cette magnifique vision, il remercie Allah. Et pour cette protection, il remercie Allah. C'est une vie qui a été accomplie. C'est un passage. Inna sa'iyakum la la shatta. Après, il y a fa amma man. Quant à ceux qui, fa amma man, a'ta, wa taqa, wa saddaqa bil husna. Et l'autre, c'est wa amma man. Non, le contraire. Kazzaba wa tawalla. Et les conséquences. Ikhwani fillah, lisons le Coran. Lisons la traduction du Coran. Lisons le tafsir. C'est amplement suffisant. Ça, c'est comment on appelle ça ? C'est le défibrillateur. Comme ça, il dit non ? Spirituel. C'est exceptionnel. Quand les cœurs sont morts, on les ressuscite avec quoi ? Avec Kalamullah. Et notre musiba à nous. Notre gros problème là, c'est que le Coran, soit on n'a pas de rapport, pas de relation avec le Coran, à part nos lectures durant le mois de Ramadan, ou même si on le lit tout le temps, il y a des gens, mashallah, qui lisent tous les jours, qui révisent, on se contente de lire basse. On ne va pas aller plus loin. On ne va pas prendre un tafsir pour essayer de comprendre le sens, le ma'ani du Coran. Alors que ça, c'est pour nous, ça. Quand Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanouna », Allah n'a pas dit « Ya ayyuhalladhina ». Je ne change pas les versets. Allah ne s'adresse pas à ceux qui ont la connaissance religieuse. L'Ikhwan filah, le Coran, ce n'est pas pour les savants. Je veux dire, ce n'est pas réservé aux ulama, aux mufti, aux fundi. Là, le Coran, c'est pour chaque personne qui a iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Mais aujourd'hui, on a construit un système, malheureusement, qui a beaucoup d'avantages, mais parmi les inconvénients, on s'est déconnecté totalement du Coran. Et ça, c'est un naqs ajib. Ça, c'est un manquement qui se voit au plus profond de la foi. Lorsque la foi est testée réellement, c'est là qu'on voit que dedans, il n'y a pas grand-chose. Qu'Allah nous pardonne, moi en premier, qu'Allah nous protège de ces manquements. On se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose. C'est une apparence, on fait de bonnes actions, mais au plus profond, il n'y a pas énormément de base. Alors que les sahaba, ils avaient des usul al-iman. Les piliers de la foi étaient solides parce que le iman était construit sur le wahi qui descendait tous les jours. Le iman, je répète, c'était construit et solidifié sur les bases des versets du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait tous les jours et qu'il enseigne aux sahaba à Mecca dans cette petite école de qui se rappelle du nom. Ah, mashallah. Al-Arqam ibn al-Arqam barakallah fik, un jeune homme qui avait quel âge? 11 ans. Il avait une petite maison. Il a donné ça pour an-Nabi sallam pour enseigner le Coran, un enfant de 11 ans. Subhanallah. Et c'est grâce à lui que les sahaba ont pu s'asseoir et apprendre et que subhanallah, ça nous est transmis. On reste dans notre sujet. Justement, c'était quoi encore le dernier point qu'on disait? C'était oui, cette connexion avec le Coran et les sahaba, ils ont grandi. Le iman s'est construit sur la base des versets du Coran. Nous avons appris. Notre iman s'est basé directement sur les ibadah. Ben oui, madrasah, on apprend quoi? Ahkam, fiqh, jurisprudence. Comment on fait la salah, comment on jeûne, comment on donne l'aumône, comment on fait le pèlerinage. C'est les piliers, il faut le faire. Personne ne le conteste. Mais c'est étrange que... Et dans certaines madrasas, mashallah, il y a des... Je ne vais pas sortir du sujet, même si... C'est bien aussi, on a une délégation de Alim qui était parti en Angleterre. Il y avait un salon. Un salon des madaris. Et ils sont revenus avec des supports très intéressants. Et on voit que, ben, par exemple en Angleterre et dans d'autres pays, ben, le tafsir est enseigné aux enfants. Et j'ai eu accès au manuel, c'est vraiment bien. Les tafsirs des 10 dernières sourates du Coran avec les leçons à retenir, les leçons de iman. C'est magnifique ça. Vous savez, Alhamdou, Al-Fatiha, c'est amplement suffisant déjà. C'est vraiment, c'est tellement puissant, le alif lam de alhamdou, le lam de l'illahi, la puissance du mot rab, qui n'est pas ilah, qui n'est pas khaliq, qui est autre chose, et la bonté divine qu'il y a dans le mot rab, al-alamin, et ainsi de suite, subhanallah, c'est magnifique. On a vraiment besoin de se reconnecter au Coran. Donc, on disait donc, inna sa'yakum la shatta, et puis chacun choisit quelle voie. Il y a le destin, bien sûr, il y a le destin, mais nous avons tous le libre arbitre. Et en finalité, ce qu'on a choisi, c'est ce qu'Allah nous a prédestiné. Et quel est le verset, quel est le sourate par excellence qu'on est en train d'étudier, qui nous permet de comprendre le destin? C'est la sourate au Latanier. Ah, pas trop Latanier. La sourate Nuh, avec un destin terrible pour ceux qui ont péri dans le déluge, mais qui ont eu un des meilleurs prophètes de l'humanité, Noé, Nuh alayhi salam, parmi les cinq, Ulul Azmi minar Rusuli, une des plus grandes prêches de l'histoire. Combien d'années? 950 années. Un des prophètes les plus patients, qui a prêché ouvertement, individuellement, avec sagesse et tout. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, leur corps, en même temps qu'ils se noyaient, ils périssaient dans l'eau, dans l'inondation de le déluge, leur ruh brûlait déjà en enfer. D'où le verset? Ça ne me revient pas le verset. C'est la fin de la sourate Nuh, où on parle de l'eau immédiatement après du feu. Donc, on revient à ce hadith et que je reprends. Il n'y a pas une personne de ce dunya qui meurt et pour qui Allah a réservé un grand destin, une grande ouverture de l'akhira, et qui donc voit ce qu'Allah lui a accordé et que cette personne souhaite « Tuhibbu an tarja'a ilaykum » et que cette personne souhaite revenir vers vous. Et on n'a pas lu tout le hadith, « Wa laha na'imu dunya wa ma fiha » et que cette personne, on lui promet, tu retournes auprès de tes proches, tu as le choix, tu as vu qu'est-ce qu'Allah va t'accorder, allez, on te donne le choix, retourne auprès de ton mari ou de ton épouse, auprès de tes enfants, de tes petits-enfants, et tu les retrouves en bonne santé, wallaha na'im dunya wa ma fiha, et on t'accorde tous les bienfaits de ce monde qu'un être humain puisse avoir. Tout ce qui fait rêver l'être humain comme bienfait. C'est-à-dire qu'on te retourne de ce dunya en parfaite santé avec les biens de ce monde et ta famille. Il y a une situation de bonheur, de dunya. Une situation de bonheur. C'est-à-dire cette même situation de bonheur que moi j'essaie de construire avec mon travail, avec mes heures sup, avec tout ce que j'investis et ainsi de suite. J'essaie de construire ce bonheur-là. J'y arrive parfois, mais quand je n'y arrive pas, je redouble d'efforts parce que je veux ça. Je veux ce concept de villa avec piscine, avec grosse voiture, avec trois voyages par an, avec ainsi de suite et tout. Je vous dis un peu n'importe quoi. C'est un peu la conception de la réussite de ce monde. J'essaie de le construire. Mais vous savez, quand on fait un petit pas, c'est pas encore, il n'est pas mort. Quand il y a un petit pas dans l'au-delà et qu'on lui dit, tu peux revenir, on te laisse. Repart et on te donne tous les bienfaits de ce monde. Plus que la personne n'a pu imaginer ou penser pouvoir construire. Jamais, le prophète dit que jamais la personne ne serait d'accord de revenir de ce dunya. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'Allah lui a réservé, et le mu'min qui a vu ce qu'Allah lui réserve de l'au-delà, il veut aller vers ce akhira et obtenir les récompenses auprès de son Seigneur. À l'exception de, là le prophète m'a donné une catégorie de bonne action qu'on va développer parce que ce serait trop long, parce qu'il voit qu'est-ce qu'Allah donne comme récompense pour telle action. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. On peut juste compléter avec une citation de Ibn Abi Dunya qui dit, Ibn Abi Dunya a écrit un livre, un ouvrage magnifique sur la tombe et qui est traduit en français. Si je vous le dis, c'est parce qu'il est traduit en français. Je l'ai vu une fois et essayez de le trouver en bibliothèque. Ibn Abi Dunya. C'est un livre magnifique, un peu moins riche que cet ouvrage-là de Suyuti, que je vous invite également à lire, à essayer d'acheter et tout. C'est, à mon humble avis, c'est ce qu'il y a de plus complet sur la mort, avec des hadiths, avec des sources authentiques. C'est pas un conte d'histoire et tout, là, c'est vraiment, mashallah, des hadiths. Et donc Ibn Abi Dunya dit que Balagani anna awwala sururin yadkhulu 'ala al-mu'mini al-maut lima yara min karamati Allah wa thawabihi. Il m'est parvenu que la première joie réelle, en parenthèse, que le musulman va connaître, ben, c'est la mort. C'est la vraie joie. Parce qu'il voit enfin comment est-ce qu'Allah l'accueille. Comment est-ce qu'Allah l'honore. Karama. Karama, ça vient de ikram. Comment est-ce qu'Allah l'honore. Wa thawabi. Comment est-ce qu'Allah le rétribue. Vous savez que quand on accomplit une bonne action, Allah Rabbul Izzah nous a révélé « Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha » Celui qui accomplit une bonne action, Allah lui en rétribue, le sens du verset 1, 10 fois plus. Et ça va jusqu'à 700, hein, d'où le verset « Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatim mi'a 100 habba » Le verset de la sourate Al-Baqarah qui montre que ça peut aller jusqu'à 700 et Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah peut, le sens du verset 1, augmenter pour qui le veut. C'est-à-dire que même le 700 là, c'est pas limité. Allah peut donner encore plus. Subhanallah. Mais quand le mayyit, il voit, waouh, tout ce qu'Allah est en train de lui donner, beaucoup plus que ce qu'il a mérité, beaucoup plus que ce qu'il sait qu'il a accompli, comment voulez-vous qu'il soit de retourner de ce dunya? C'est-à-dire que là, nous sommes dans un monde d'illusions. Dans Tabarak al-Ladhi, Allah Azza wa Jalla nous dit à propos des kuffars, qui me retrouve le verset, fi ghurur. Facile ça, il faut juste retrouver deux mots avant. Allah Rabbul Azza cite les kuffars et dit fi ghurur. Ils sont dans une illusion, le sens du verset. C'est une illusion ça. Ce monde, quand tu vois qu'il brille, quand tu vois telle chose, c'est une impression. Mais la réalité, c'est quand le mu'min quitte ce monde, il se rend compte que c'est pas grand-chose. Vous avez déjà vu peut-être les maquettes de l'univers, du système solaire. Ouais, sur les réseaux sociaux, il y a ça. Toi, tu es ici, d'accord? La Terre par rapport à telle planète, le système solaire, les systèmes solaires. Et on se rend compte que la Terre, c'est un grain de sable. Et de ce grain de sable, il y a la Réunion. D'accord? Et c'est quand on prend du recul qu'on se rend compte que tout ça, tout ce que je voulais là, ton bâtiment 10 étages là, ça représente quoi en fait? Et pour ça, on a fait bataille de frères et sœurs, tu as pris son morceau de terre ou la machin devant l'huissier, pas l'huissier, devant le notaire. On a fait volume ainsi de suite. Tout ça, c'est pour quelque chose, pour de la pierre. Hajar, pour de la pierre. Et quand on voit ce genre de photos, dimanche, on se rend compte que subhanallah, c'est rien. Et quand le musulman quitte ce dunya, il se rend compte que c'était totalement insignifiant. Ikhwan fillah, vivons pour le akhira. Et préparons le akhira. Qu'Allah Rabbul Izzah, de sa clémence, nous accorde des cœurs éveillés et qui ne sombrent pas dans l'illusion et qui nous fait voir les choses comme elles le sont. Et qu'Allah nous permet de raccrocher notre pratique, notre pratique, qu'elle soit rattachée à Kalamullah, à sa parole et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui garde comme base le Coran et les hadiths, la personne verra la lumière du dîn, verra la lumière et qu'Allah nous permet de suivre cette lumière. On va conclure par un doua pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Qu'Allah Rabbul Izzah nous garde tous en bonne santé. Qu'Allah nous protège. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un scénario. Qu'Allah nous protège. Ça n'arrivera jamais, Inch'Allah. Qu'Allah protège notre île. Qu'il n'y ait pas un seul cas, Inch'Allah, de coronavirus qui rentre dans l'île, Inch'Allah. Et que personne ne soit malade. Muslim, Nasara, Hindous, Kafir, Billah, personne. Toute religion confondue, que les gens restent, Inch'Allah, en bonne santé, qu'Allah nous protège et que nos rassemblements dans les massages ne soient jamais mis en péril à cause d'une maladie ou à cause de ce genre de problème et que les personnes qui sont atteintes en France ou dans n'importe quel pays au monde, qu'Allah leur accorde la santé et envoie la afia et qu'en compensation de ces difficultés et de ces épreuves, chaque personne qui a connu des difficultés, qu'Allah leur accorde la foi à l'iman. Subhana rabbika rabbil izzati. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب جزاكم الله خيرا.